Le National, c'est le dernier de la saison. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter, oui, cette dernière émission du National consacrée, vous le savez maintenant, à des articles qui s'écrivent à droite et à gauche de notre grand pays. Au cœur même de la francophonie. Aujourd'hui, ben oui, il sera beaucoup question de la fête de la Saint-Jean, parce qu'il n'y a pas qu'au Québec que ça se célèbre, la Saint-Jean. Il sera aussi question d'une école qui va porter un nom relativement célèbre au pays de la Sagouine. Là, je viens de vous donner une énorme information. On va parler d'une jeune Torontoise qui remporte le concours national d'art oratoire. On va faire une plongée dans le Canada français de 1950. On va parler de London en Ontario, qui présente un premier festival de graffiteurs. Et puis, on ira faire un tour en Ontario pour voir comment on célèbre la Saint-Jean là-bas, ainsi qu'au Yukon d'ailleurs. Alors, on va y aller avec la Saint-Jean et d'abord peut-être cette question, parce que je trouvais que c'en était une excellente que se pose Bernard Bockel ce matin dans laliberté.ca. Bernard Bockel est l'éditorialiste de laliberté.ca et le titre de son éditorial, c'est « La Saint-Jean a-t-elle encore un sens ?» Il écrit ceci. « Dès l'année suivant l'élection du Parti québécois en 1976, la fête nationale des Canadiens français a été promue officiellement Fête nationale du Québec. Ainsi, le 24 juin peut bien tomber sur un mardi ou un vendredi, la journée sera fériée et chômée au Québec, comme on le sait tous. Cette année, la Saint-Jean-Baptiste tombe sur un dimanche. L'occasion serait donc parfaite pour la diaspora québécoise au Manitoba de marquer en grand la Saint-Jean à l'unisson de leur famille. Mais les organisations du Manitoba français, qui ont décidé de liguer leurs forces pour célébrer la vieille fête des Canadiens, ont opté de tenir des activités à Saint-Boniface le vendredi 22 juin. L'objectif est de valoriser la francophonie manitobaine. Pourtant, sa diversité toujours plus célébrée exige de poser la question de la pertinence d'une fête destinée à instiller de la fierté aux descendants du groupe canadien-français. Dans les textes courants qui racontent les origines de cette fête au Canada qui remonte à 1834, on omet toujours de mentionner que l'impulsion a été donnée par les Irlandais. Dans le Canada colonial du 19e siècle, Anglais, Écossais, Irlandais et Canadiens disposaient de militants bien décidés à prouver que le groupe culturel ethnique auquel ils étaient attachés constituait bel et bien une nation. Autrement dit, qu'ils revendiquaient une existence politique et donc le droit de se gouverner. En ce temps-là, il était inconcevable qu'une nation ne se place pas sous la haute protection d'un saint. Le saint protecteur de l'Irlande étant Saint-Patrick, la première Saint-Patrick au pays a eu lieu à Montréal en mars 1834. Pour ne pas être en reste, les Anglais se sont empressés de mettre Saint-Georges à contribution quelques semaines plus tard. Un Canadien piqué au vif, Lodger Duvernay, a vite fait de réunir à Montréal, le 24 juin, quelques amis pour un banquet sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste. Telles sont les dures exigences du nationalisme. Il faut faire comme les autres, mais en mieux, pour asseoir une plus solide légitimité. À la même époque, à la Rivière-Rouge, les Métis, sous l'influence de leur évêque, Norbert Provencher, priaient spécialement Saint-Joseph, le protecteur officiel de l'Église du Canada. De nationalisme, il n'en était pas question. Il faudra attendre la naissance du Manitoba, en 1870, pour que le jeu politico-patriotique en vigueur dans l'Est viennent s'immiscer dans la vie d'ici. Une première Saint-Jean est organisée par l'élite canadienne-française le 24 juin 1871. Elle a donné lieu au classique mélange de célébrations religieuses et de discours patriotiques. Le journal Le Métis a résumé ainsi l'événement téléguidé. Que les rivages de la rivière Rouge soient témoins de notre vitalité et qu'ils redisent que nous sommes et voulons rester canadiens-français. Un message qui ne concernait pas les Métis du temps, ni ceux d'aujourd'hui. Au demeurant, ce message, qui est la raison d'être de la Saint-Jean, ne concerne en 2018 aucun autre groupe culturel qui tient à la bonne volonté de la francophonie manitobaine. Dans les années 70, à la Broquerie, où la Saint-Jean avait perduré comme tradition villageoise, les organisateurs ont commencé à parler de la fête franco-manitobaine. De nos jours, le qualificatif franco-manitobain fait débat au point où la société franco-manitobaine s'est muée l'an dernier en société de la francophonie manitobaine. Les signes des temps sont clairs. D'abord pour une fête annuelle pensée pour saluer les potentialités du projet des bilingues manitobains, mais solidement fondée sur les valeurs bien de notre 21e siècle, ouvert de nécessité sur le monde. Alors à la Broquerie, où d'ailleurs la Saint-Jean se maintient, bon an mal an, depuis plus d'un siècle avec divers ajustements, les festivités se dérouleront le samedi 23 et le dimanche 24 juin.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit. Comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce nez je désire, où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes, et de chaque côté, des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison, votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champs et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours du village, voix des beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, pillaillerie d'école et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme Paris de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté.
On l'a tellement entendue celle-ci à la veille du 24 juin que finalement plus personne ne la diffuse. Avez-vous remarqué? Et pourtant, quel chef-d'œuvre quand même! À chaque fois que je la réécoute, j'entends des nouvelles affaires. Et puis, bref, merci beaucoup, monsieur Gilles Vigneault. Si vous me le permettez, on va laisser de côté un petit peu le thème du 24 juin pour tomber dans un thème beaucoup plus difficile, ma foi, et qui a attiré mon œil dans la liberté.ca. On parle là, et nous sommes à Winnipeg, des victimes francophones d'agressions sexuelles qui sont, j'allais dire qui seraient, mais non, qui sont encore ignorées, d'après Daniel Bahuot. 16 avril, la police de Winnipeg annonce la mise en place d'un protocole pour permettre aux victimes d'agressions sexuelles de déclarer le crime à une tierce partie. La nouveauté, proposer un contexte moins intimidant qu'un poste de police. La GRC a développé un protocole semblable rendant le service possible partout au Manitoba. Le hic? Personne n'a pensé aux francophones. Le protocole développé par Justice Manitoba et par la police de Winnipeg permet aux victimes d'agressions sexuelles de rapporter l'incident au Clinic Community Health Center, c'est à Sage House, et également au Heart Medicine Lodge. Contacté par La Liberté, qui a soulevé la question de l'absence d'un service en français et la possibilité d'offrir ce service auprès d'un organisme francophone, la porte-parole du service de la police de Winnipeg, Alice Yateki, a répondu en anglais par voie de courriel. À l'heure actuelle, nous offrons le service de tierce partie auprès des trois agences avec lesquelles nous avons déjà une bonne relation de travail. Étant donné la nouveauté du protocole, nous n'allons pas étendre le service à d'autres agences. Nous devons considérer qu'il n'y a pas seulement des francophones à Winnipeg. Et c'est pourquoi le centre clinique a un service d'interprète. Si une personne ne parle que le français, l'hindi, le swahili ou le tagalog, clinique va s'assurer de trouver une personne qui puisse l'aider. Il faut que les formulaires de la police de Winnipeg soient en anglais pour que tout le monde comprenne le procès-verbal de la victime. Nicole Chamartin, la directrice de clinique, confirme que le service n'est pas officiellement bilingue. Nous avons du personnel et des bénévoles bilingues, mais ils ne sont pas toujours disponibles. On doit se prévaloir du service de traduction en ligne de l'ORS de Winnipeg. Contacté au tout début de juin par La Liberté, Paul Manègre, le porte-parole officiel à la Gendarmerie royale du Canada, a exprimé sa surprise que le service en français n'était pas offert. « Je trouve ça bizarre. Pour la GRC, c'est une vraiment bonne idée. Et ça devrait aller de soi. » Le 15 juin, Paul Manègre a recontacté La Liberté pour préciser que le sergent Joe Duncan, le responsable du dossier, allait rencontrer le personnel de clinique pour discuter de la question linguistique. Pour avoir la position de la ville de Winnipeg, La Liberté a pris contact par voie téléphonique et par courriel avec Nicole Young, la coordonnatrice des services en français. Au moment d'écrire ces lignes, une réponse ne nous était pas encore parvenue. Mona Audet est la directrice de PluriL. Elle assure que son organisme est bien placé pour offrir un service de déclaration d'agression sexuelle. Notre mission principale est d'aider les gens. On a des travailleuses sociales, des personnes qui font de la médiation et qui offrent des ateliers sur l'intimidation. On a donc le personnel. 95% des victimes d'agression sexuelle ne rapportent pas le crime. C'est donc manifestement évident qu'on doit faire tout notre possible pour les aider à rapporter. Il faut les aider à sortir de la peur. L'important, c'est que ça se passe en français. Quand tu souffres, tu as besoin de t'exprimer dans ta langue. Alors, est-ce que ça pourrait être pluriel? Certainement, mais il y a aussi de la violence faite aux hommes. Le centre Renaissance sur Autumn Wood au parc Windsor pourrait faire partie de l'équation. L'essentiel, c'est que le service en français soit offert. Rochelle Squires, dans ses rôles de ministre des Affaires francophones et de la condition féminine, estime important que les victimes des agressions sexuelles puissent faire enregistrer leur déposition dans la langue de leur choix. Je sais d'expérience qu'une agression sexuelle est un événement traumatisant, intensément personnel. Quand j'ai parlé de cette expérience à l'Assemblée annuelle de Pluriel, on m'a accordé la permission de le faire en anglais. Il m'aurait été impossible de parler de cette agression en français. Je souhaiterais donc voir ce service offert aux francophones et qu'elles puissent remplir leur rapport en français. Je crois qu'un organisme comme Pluriel, qui offre déjà des services ayant rapport à la violence familiale, pourrait potentiellement offrir ce service. Je crois beaucoup, à la possibilité de permettre la déclaration d'une agression par le biais d'une tierce partie, et je serais très heureuse de servir d'intermédiaire entre Pluriel et les autorités policières. Alors, les nouvelles écoles de Dieppe, près de Moncton, ont enfin un nom, dont celui d'Antonine Maillet, apprend-on. Antonine Maillet et Le Marais. Ce sont les noms qui seront donnés aux deux écoles du nouveau complexe de Dieppe. L'ouverture de ce nouveau complexe scolaire était très attendue et a été reportée plus d'une fois, mais les élèves, qui déménageront officiellement en septembre, peuvent enfin lui donner un nom. L'annonce a été faite mercredi à l'école Amiro, à Dieppe. L'ouverture de ce nouveau complexe scolaire est très attendue par la communauté, car il doit permettre de désengorger trois écoles. Le nouveau complexe scolaire, un projet de 28 millions de dollars, pourra accueillir plus de 1000 élèves. L'école Le Marais accueillera les élèves de la 3e à la 5e année et l'école Antonine Maillet, ceux de la 6e à la 8e année, précise le district scolaire francophone sud. Et au cours de l'année 2018-2019, seuls les élèves de la 6e et de la 7e année fréquenteront la nouvelle école.
Elle allait maudire rien, nous chasser comme des bêtes, d'être les saintes familles, nous jeter tout souvent. Réveille, réveille, c'est le gardien qui vient brûler la récolte. Réveille, réveille.
D'autre que Zacharie Richard pour évoquer le pays de la Sagouine. Le pays de la Sagouine qui voit grand d'ailleurs pour la saison 2018, apprend-on dans lemoniteuracadien.com. Le pays de la Sagouine a ajouté plusieurs artistes de renommée pour compléter sa programmation 2018, notamment Robert Maillet, Christian Kitgoggen et Monique Poirier. L'ouverture officielle de la 26e saison de L'Île aux Puces se fera à compter du dimanche 24 juin et s'étendra jusqu'au 2 septembre prochain. Et parmi les nouveautés, les visiteurs pourront rencontrer le géant acadien Robert Maillet. Robert était déjà avec nous pour les soupers théâtres de Noël, mais son histoire et son parcours sont tellement intéressants qu'il a été facile pour nous de l'imaginer comme un habitant de L'Île aux Puces. Nous avons donc réaménagé notre forge spécialement pour lui, où il pourra démontrer sa force, se réjouit le directeur général et artistique Luc Leblanc, qui incarnera pour une 24e année le personnage de Citrouille. D'ailleurs, le personnage Citrouille sera au cœur des rumeurs alors qu'il décide de quitter Maria Gélas, dans le nouveau souper théâtre Racine. À ses côtés, Peigne souhaite remonter son arbre généalogique avec l'aide de Catoun, Monique Poirier, et quitte Christian Goggen. Ce spectacle mélangera chansons et humour et fera voyager les spectateurs de Bouctouche jusqu'en France. Le spectacle qui sera présenté à 12 reprises au théâtre Viola Légère pendant les mois de juillet et août affiche déjà complet pour la première du 17 juillet. Le Pays de la Sagouine continue d'être à l'écoute de la communauté et le succès fulgurant de la Terrasse à Air à l'été 2017 en est un bon exemple. Le monde aime le country et on a d'excellents artistes d'ici à faire découvrir. Tous les vendredis soirs, souligne R. Leblanc, responsable de la programmation de sa terrasse ainsi que du spectacle en soirée de la fête nationale du 15 août pour une deuxième année. Évidemment, nous aurons l'occasion de reparler ici à l'émission Le National ou à une autre émission sur Canal M parce qu'il n'y aura peut-être pas de National au 15 août. On aura l'occasion de parler de la fête des Acadiens, soyez-en certains. Et puis, les journées les plus longues sont les plus festives et c'est dans Aurore boréale qu'on peut trouver cette phrase-là, ce titre-là d'article. Et Dieu sait si les journées les plus longues, là-bas, on court après, hein, au Yukon. Alors, comme chaque année, écrit Marine Dumaine, les Franco-Yukanais se préparent pour la saison des festivals de musique qui rythment l'été au territoire. Occasion de découvertes musicales, de bons temps passés entre amis et même parfois de camping. Les festivals sont des événements rassembleurs attendus par les locaux autant que par les visiteurs. La saison s'ouvre chaque année par la traditionnelle célébration du solstice et de la Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, respectivement les 20 et 24 juin. Cette année, les festivités de Whitehorse reprennent leur place au camping Robert Service. Si l'an passé, la tournée Constellation francophone avait lieu au parc Shepherd, faute de place depuis 2014, l'association franco-yukonaise, l'AFY, a choisi de tenir cette célébration au camping qui est désormais un lieu municipal. Les organisateurs vous encouragent à vous préparer à danser car, comme toujours, la programmation sera des plus festives. Les activités auront lieu le 23 juin à Whitehorse et le 24 à Dawson. Des événements rassembleurs, c'est souvent l'occasion de découvrir de jeunes talents. Cette année à Whitehorse, ce sont les jeunes Amélie Latour et Emma Marnick qui ouvriront le bal à partir de 18h30 avec leur style folk. La soirée continuera ensuite avec Sophie Villeneuve. Elle présentera les chansons de son nouvel album « Le chant du hibou » sorti en janvier dernier. Et puis évidemment, le solstice de la Saint-Jean ne serait pas ce qu'il est sans la présence d'artistes invités. Cette année, c'est le groupe Pascal Lecourt et les Mauvais Caractères qui clôturera la soirée. Leur nom ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais les chances sont grandes que vous reconnaissiez quand même les chansons qu'ils joueront. En effet, la spécialité du groupe, un hommage au Coloc, ce groupe québécois qui a marqué toute une génération de francophones dans les années 90.
J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel. Un fichu caractère, je suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je trivais mes amis. J'ai donné des ulcères à mon père pis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'endurait pas. même à la SPCA. Hey! Hey! Trop mauvais caractère, je vais changer de profession, je vais devenir mercenaire au bain gardien de prison. J'ai mauvais caractère, surtout quand je viens de me lever pour me calmer les nerfs. J'avale 40 cafés, j'ai jamais pu garder une femme à mes côtés. Après une heure et quart, elle se rhabille pas, prend le bord. Un soir pendant un show, il y avait un grand nono. Il parlait un peu fort, il a mangé ma guitare. Hey! Hey! J'suis tanné de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer. Laissez-moi pas tout seul, 5 minutes avec moi. J'ai mauvais caractère.
On l'aimait même avec son mauvais caractère. Alors ça y est, c'est fini aussi pour la première partie de l'émission Le National. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec une jeune Torontoise qui remporte le concours national d'art oratoire. On parlera d'un festival de graffiteurs aussi à London en Ontario et on fera une plongée dans le Canada français de 1950. À tout de suite. Thank you. Quand même, on est hot, hein. Canalem, ça vient de sortir, ça vient d'arriver aujourd'hui, et pan, c'est déjà entre vos deux oreilles, ça s'appelle Sweeter, c'est du Julian Taylor Band. Retour à l'actualité francophone canadienne avec cette nouvelle, une jeune Torontoise qui remporte le concours national d'art oratoire. Alors déjà, bonne nouvelle, je ne savais pas que ça existait, mais oui, ça existe bel et bien. Et c'est une jeune femme donc qui l'a gagnée. On va en savoir un petit peu plus sur ce concours d'éloquence que j'affectionne, je dois dire, particulièrement. Alors, c'est Chloé Berry qui écrit ce papier dans l'express.ca, c'était le 19 juin dernier. Et elle nous présente Claudia Sassa, S-A-2-S-A, qui remporte le concours national d'art oratoire dans la catégorie francophone. Claudia Sassa est une jeune prodige de la langue française de 17 ans. En remportant le concours national d'art oratoire de Canadian Parents for French dans la catégorie francophone, elle décroche une bourse d'études universitaires de 28 000 $ quand même. Elle vise la dentisterie à l'Université d'Ottawa, cette jeune femme. D'abord désignée représentante pour le concours dans son école secondaire catholique Blessed Cardinal Newman à Scarborough, elle s'impose ensuite dans son conseil scolaire, le Toronto Catholic District School Board, puis l'emporte à l'échelle provinciale. Le 2 juin dernier, les 38 meilleurs étudiants en français du pays se sont affrontés à coups de pertinence et de trait d'esprit à Ottawa. Les jeunes de 11e et 12e année étaient répartis en 5 catégories. Français de base, français intensif, immersion tardive, immersion précoce, francophone. Nous avons rencontré Claudia Sassa, la tenante du titre de la catégorie francophone dans laquelle 7 jeunes concouraient. Pour sa 16e édition, le concours d'art oratoire a vu briller une jeunesse qui tient à pouvoir s'exprimer dans ses deux langues nationales. Quand j'ai compris que j'avais gagné, je ne pouvais pas y croire. Je regardais mes parents qui pleuraient. J'étais heureuse, nous raconte-t-elle, alors que l'émotion se fait encore entendre dans sa voix. Pour elle, le concours a été une belle expérience. J'ai aimé rencontrer des élèves avec la même habileté que moi en français. Forts de leurs points communs linguistiques, les jeunes participants ont tissé des liens comme on peut l'imaginer. Pour la finale, son discours sur l'importance du voyage a fait mouche. Elle a pu partager avec le jury sa prise de conscience. Lors d'un voyage au Congo, alors qu'elle était plus jeune, Claudia a réalisé la chance qu'elle avait de vivre au Canada. Le Congo est un très beau pays, mais les conditions sont malpropres. Moi, ici, au Canada, je n'ai pas de souci à me faire. Je sais ce qu'il va m'arriver, nous explique-t-elle. Claudia, qui a grandi dans un univers bilingue, elle est originaire de la République démocratique du Congo. Le français est sa langue maternelle et elle le parle principalement à la maison. Lorsqu'elle rentre en 9e année, Claudia intègre un programme intensif à l'école, soit 75 minutes de français tous les jours. Elle étudie la grammaire et les conjugaisons, mais elle a aussi des cours spécifiquement en langue française, comme l'histoire ou la géographie. Pour elle, être bilingue, c'est se donner une liberté. « Je peux communiquer avec plus de personnes et c'est un avantage pour l'emploi », nous dit-elle. Malgré son jeune âge, Claudia est bien consciente des réalités sociales canadiennes. Selon elle, le bilinguisme n'est pas ce qu'il devrait être. En devenant dentiste, elle fera de sa francophilie une force. Claudia compte bien agir pour un meilleur accès aux services en français pour les soins de santé. C'est très important de pouvoir parler français en tant que personnel médical pour que les immigrants se sentent mieux accueillis dans un pays étranger, rajoute-t-elle. Alors je me demandais bien, mais qu'est-ce qu'on va mettre encore comme chanson à la fin d'un papier comme celui-ci ? Alors j'ai fait des recherches, parler, tout ça, causer, bien parler le français en tout cas, nommez-le. Puis finalement, je suis tombée sur cette vieille chanson de la Bolduc qui s'appelle « La chanson du bavard », où il est question, entre autres, des gens qui parlent peut-être un peu, beaucoup trop dans un micro de radio.
Et mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio. Je vais tout vous raconter. Il y en a plus que tant que j'ai la langue paralysée. Et d'autres ont imaginé que j'avais le nerf du cou cassé. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent me dévoiler dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Pourvu que je veux pas d'anglais, je suis pas pour parler français. Vous allez me prendre pour une commère, mais c'est mon désir le plus cher. On nous a toujours enseigné de bien penser avant de parler. Il y en a qui sont rigolos, ils ont la bouche comme un radio. Pour les empêcher de parler, pour les autres électricité. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Pourvu que je veux pas d'anglais, et je suis pas bon parler français. Notre chemin doit être critiqué, pas plus bas que soi. C'est la faute des vieilles commères qui se met pas de leur affaire. Il y en a la belle journée qui passe le temps à bavasser. Il devra cracher en l'air et ça lui tombera du nez. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Pourvu que je me pas d'anglais, je suis pas bon parler français. Il y en a d'autres de leur côté qui tout passent à décolleter. Asseyez, plaire à tout le monde, je vous dis que c'est du racironde. Je m'habille modestement, puis mes chansons sont de l'ancien temps. Mais partout je vois surlutter, j'ai pas honte de me présenter. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent me dévoiler dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Pourvu que je me parle d'anglais, et je suis pas bon parler français.
Alors, c'est Clotilde Say qui vous parle du radio. J'aime tellement ça. Oui, on se faisait la remarque avec mon ami Mathieu Tessier, qui est en régie aujourd'hui, qui me disait, imagine, si même la Bolduc dit qu'elle parle comme dans l'ancien temps. Nous, aujourd'hui, en 2018, non, mais c'est fou, quoi, parce que nous, on a l'impression que ces gens-là, que si on parle comme eux, on parle comme dans l'ancien temps, quoi. En tout cas, bref, c'est bien intéressant. Puis j'aime beaucoup l'idée du bavard du radio. Je trouve ça vraiment super. Alors, eh bien, la bavarde va continuer, puisque je suis quand même là pour ça, notamment pour vous lire des papiers qui sortent dans les journaux, dans les coins de pays canadiens francophones. Là, nous sommes dans l'action.ca. On nous parle d'un premier festival de graffiteurs à London. C'est écrit par Philippe Thivierge. Un autre festival, pourquoi pas? Cette fois, ce sont les graffitis qui ont été à l'honneur au cours des 3 jours qu'a duré le festival Masterpiece à London. C'était du 14 au 16 juin sur la rue King. 5 graffiteurs ont exercé leur art sur les piliers du pont piétonnier qui relie l'hôtel Doubletree au London Convention Centre, ou London Convention Centre. La création de nouvelles murales s'insérait dans une programmation comprenant des prestations musicales, des activités pour enfants. Il y avait aussi un marché d'artisans, un barbecue et toutes sortes d'affaires. Mais alors que toute cette animation n'était destinée qu'à ne durer que quelques heures, les œuvres qui ornent désormais la rue King sont là pour rester. C'est pourquoi les organisateurs ont fait appel à 5 artistes canadiens qui ont su se démarquer au fil des ans. D'abord Brad Biederman, Megan Claire Kehoe, Bacon, Astro et Mick Michel. Cette dernière est de plus en plus connue au sein de la communauté francophone. Elle-même franco-ontarienne, originaire du nord de la province, Mick Michel a animé des ateliers artistiques partout en Ontario et nombreux sont ceux qui ont fait appel à son style et à ses talents pour orner des édifices publics, des espaces extérieurs ou encore des galeries d'art. « Il y a une chose qui me tient à cœur, explique l'artiste, tout ce que je mets sur un mur vient de la communauté. L'inspiration lui vient parfois d'anecdotes que lui racontent des gens rencontrés au hasard, ainsi le faucon pèlerin que Mick et Michel a peint sur le pilier qui lui a été attribué représente le même oiseau observé à quelques pas de là par des passants. Les histoires que lui partagent les uns et les autres constituent un enrichissement aussi bien personnel qu'artistique, car, comme elle le rappelle, être à l'écoute du pays s'avère essentiel pour renouveler l'art du graffiti. Bien que souvent considéré comme marginal, cette forme d'expression fait appel à un langage universel, le dessin, et à des sentiments qui rejoignent tout le monde. Le graffiti a toujours été là pour rappeler aux gens qu'il y avait un manque d'humanité, rappelle Mick Michel, qui ne manque jamais l'occasion de démystifier le graffiti et de le promouvoir comme un art grand public. Un autre graffiteur francophone, dont le véritable nom demeurera un mystère, est Astro. Depuis ses humbles débuts à Montréal, il y a plus de 20 ans, il a fait sa marque avec un style aisément reconnaissable fait de créatures burlesques qui rappellent l'univers du dessin animé. Ses œuvres peuvent être vues sur divers supports puisqu'il travaille également comme illustrateur, quoique sa passion première demeure l'art de rue. Issu du milieu du graffiti, Astro ne cherche pas tant à communiquer de messages qu'à focaliser plutôt sur la forme, le design. Ses créations, empreintes d'un humour grinçant, mettent le plus souvent en scène, comme c'est le cas sur son pilier de la rue King, deux petits monstres plus mignons que menaçants et qui ne se rencontrent pas chez les autres artistes. « Il y a tout le temps des modes qui passent », explique-t-il. « C'est un style très personnel. » Le festival Masterpiece était organisé par le London Convention Centre et Downtown London, une association de marchands et d'institutions. Il n'est pas confirmé que l'événement soit reconduit l'an prochain, ni pour les années à venir, mais si c'était le cas, un nouvel espace public serait chaque fois mis en valeur dans le centre-ville qui, peu à peu, verrait ses murs être décorés de l'inspiration des meilleurs artistes. Je vous propose d'ouvrir bien grande vos oreilles avec une chanson de quelqu'un qu'on n'entend jamais, mais alors jamais sur nos ondes, que ce soit dans la vieille Europe comme ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. Elle a écrit cette chanson sur les graffitis, plus précisément à Paris. Mais bon, un graffiti sur un mur, que ce soit à Paris ou ailleurs dans le monde, ça reste toujours un graffiti et ce qu'il véhicule également.
Dis pourquoi crois-tu qu'on écrit tous ces graffitis, tous ces petits bobos gravés sur la peau de Paris, tous ces rendez-vous donnés n'importe où le long des trottoirs, tous ces petits romans qu'on lit en passant sans y croire. Une main qui passe a laissé la trace d'un prénom qu'on aime, quelques mots d'injure jetés sur un mur en criant. Pauvre boîte aux lettres ouvertes, Paris n'a plus qu'elle pour soulager sa peine. Dis pourquoi crois-tu qu'on écrit tous ces graffitis, tous ces petits bobos gravés sur la peau de Paris, tous ces rendez-vous donnés n'importe où le long des trottoirs, tous ces petits romans qu'on lit en passant sans y croire. Une main qui passe a laissé la trace d'un prénom qu'on aime. Quelques mots d'injure jetés sur un mur en criant. Pauvre boîte aux lettres ouvertes, Paris n'a plus qu'elle. Pour soulager sa peine.
Oui, ça fait très années 50, cette chanson-là. Je suis bien d'accord avec vous, mais ça fait du bien aussi aux oreilles. Hein. Oh. Puisqu'on est dans les années 50, eh bien, faisons une plongée dans le Canada français de 1950. C'est le titre d'un papier sorti dans lemétropolitain.com, écrit par Nicolas Asson-Fauré. En cette année 1950, la photographe américaine Lida Moser arrive au Québec. Le magazine Vogue l'a envoyée au Canada avec un objectif. « Photographier ce que je voulais », disait-elle en 2004. La photojournaliste va alors explorer la province de Montréal à Gaspé. Elle ramènera de ce voyage plus de 1000 clichés instantanés qui brossent un portrait de la vie, dans le Québec de l'époque. Presque 70 ans plus tard, ce travail est au centre d'un documentaire projeté à Toronto le 30 juin. La cinéaste Joyce Borenstein signe Lida Moser, photographe, qui raconte cette odyssée au travers d'un support plutôt inattendu, le film d'animation. C'est important. Ce récit graphique est une manière de rendre accessible un sujet complexe, explique le professeur Norman Cornette, docteur en histoire universitaire, spécialiste de l'histoire du Canada français, qui anime les discussions suivant les projections du film. Les images de Lida Moser racontent le Québec d'avant la Révolution tranquille. En s'y intéressant, le documentaire permet de démystifier le Canada français de l'époque qui ne connaissait pas de frontières entre le Québec et l'Ontario ou d'autres provinces, poursuit Norman Cornette. On découvre notamment, au travers des images, les liens avec la France par le folklore, les contes, les chansons et les danses, dit-il encore. Les photographies montrent une vie difficile et simple, un retard industriel et technologique par rapport au reste de l'Amérique du Nord. La culture est très présente aussi. À l'époque, la journaliste voyage avec l'ethnographe Luc Lacourcière, Félix-Antoine Savard, doyen de la faculté de lettres de l'Université Laval, et Paul Gouin, conseiller culturel de Maurice Duplessis, qui lui a présenté toute l'élite du Canada français, restitue Norman Cornette. Pourtant, l'ironie du film, c'est que Lida Moser est avec les plus grands du Canada français, mais fixe son objectif sur le peuple. Son travail relève du documentaire. Ces photographies représentent des témoignages bruts. Elle était une pionnière du reportage photographique et excellait dans le photojournalisme à une époque où les femmes étaient rares sur le terrain, et résume le New York Times dans une nécrologie publiée après son décès en 2014. C'est aussi ce que montre le film de Joyce Borenstein, fruit d'heures d'entretien. Tous ces éléments font que le film et la discussion s'adressent aux amateurs de photographie autant qu'aux férus d'histoire, ou à ceux qui veulent se plonger dans le Canada français d'il y a près de 70 ans. La projection du film, Lida Moser photographe, sera suivie d'une discussion avec le professeur Norman Cornette. Ça va se passer le 30 juin prochain de 12h30 à 14h30 au cinéma Imagine Carlton au 20 rue Carlton à Toronto. C'est présenté par le Female Eye Film Festival. Envie de vous replonger dans les années 50? On va le faire en musique.
Être coquette pour dire au ciel en s'éveillant. N'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Les pieds dans les sables des dunes, je les ai vus qui s'embrassaient à l'ombre des joncs des lagunes. Et puis la mer qui lui disait, n'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Au bras de la mer fière d'avoir le soleil en bouquet. Il y avait leur cœur et les fleurs et le jonc. Chaque jour depuis mille fois revit cette chanson.
La voix de Lucille Dumont, Le ciel se marie avec la mer, grand prix de la chanson canadienne de Radio-Canada en 1957, autrement dit la chanson à 60 ans, une chanson de Jacques Blanchet, tiens, pour les puristes. Bien sûr, nous sommes à la veille, à l'avant-veille de la Saint-Jean, 24 juin. J'ai envie de vous parler de quelques Saint-Jean qui auront lieu à droite ou à gauche, notamment en Ontario. Et c'est grâce au journal l'express.ca. Alors, le groupe Hey Wow, francophone, se produira à Oshawa pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Cette année encore, les célébrations de la Saint-Jean, fêtes de tous les Canadiens français. Alors, réservez vos 22, 23 et 24 juin. Donc, dès aujourd'hui, l'Express vous résume les festivités parmi lesquelles les plus enthousiastes des festivaliers devront choisir. C'est pour une deuxième année d'affilée que nous pourrons retrouver la Francofête à Arborfront. Au colloque, au Rat Swampé et à Kiris viennent s'ajouter trois groupes d'une francophonie venue d'ailleurs. Alors pour découvrir de la musique électronique afro-house congolaise, courez voir Kizaba. Ça, c'est le samedi 23 juin à 15h. Originaire de la République démocratique du Congo, Lionel Kizaba fait sonner la musique africaine dans toute son urbanité. La musique africaine qui sera bien représentée d'ailleurs avec le groupe montréalais d'origine tchadienne, Ashsao. Aussi, Bombo Lessé vous fera trémousser sur des airs de samba et de reggae le 24 juin à 11h et à 13h15. Les sept musiciens des quatre coins du monde vous invitent au voyage. Le Winston Band aux accents cajuns Zydeco sera le dernier à se produire à la Francofête à 14h30. Maintenant, York. L'association des francophones de la région d'York vous donne rendez-vous à Stoffville le 23 juin. De 16h30 à 22h pour célébrer la Saint-Jean, des activités familiales sont prévues à la ferme de Willow Grove autour d'un feu de camp. Au programme Activités pour les enfants, chorale, jeux de culture générale, scène ouverte, bref, et aussi bien sûr de quoi se restaurer. C'est en musique que la soirée se clôturera avec les troubadours torontois Welcome Soleil qui monteront sur scène. À Hamilton, la Francofest annuelle présente une belle programmation pour célébrer cette francophonie. Le Couleur, Claude Bégin, Jamie Atkins, Jacobus, Céleste Lévy C'est sous le chapiteau du parc Gage que le Centre français de Hamilton vous donne rendez-vous les 22 et 23 juin. Beaucoup de nouveautés nous promettons à découvrir, notamment un pavillon des saveurs. Et on aura le droit de prendre un petit coup dans l'enceinte du festival, nous promettons. Également à Oakville, l'école Gaëtan Gervais d'Oakville ouvrira ses portes, elle qui a été fraîchement inaugurée. Elle ouvrira ses portes le 24 juin de 13 à 18 heures pour célébrer la Saint-Jean avec une vente de livres, restauration, projection du film La Panthère Noire. L'objectif est de passer du bon temps et de faire se rencontrer la communauté francophone de la banlieue ouest de Toronto. Voilà mes amis, c'était Clotilde Saï au micro de Canal M. J'ai toujours un énorme plaisir, vraiment, à chaque semaine, de venir vous lire ce qui s'écrit dans les quartiers, dans les régions francophones du pays. On recommencera à la saison prochaine. D'ici là, bien, bon été et puis bonne Saint-Jean.